Soin de votre corps, c'est le seul endroit
où vous êtes forcé de vivre.
¿Qué es la identidad de género de una persona? Exactamente, ¿cómo se siente? ¿Y qué? ¿Por quién sentís atracción sexual afectiva? Oh, por otras mujeres. ¿Ella deja de ser mujer? ¿Por eso?
No sé qué. Es imposible disociar nuestra identidad y nuestro cuerpo.
El cuerpo para nosotras es una herramienta de lucha.
Dans un corps sain.
Au bord des corps. Bonjour à tous, nous retrouvons Sik, déjà interviewé dans les podcasts Contre les frontières, qui nous partage ses réflexions sur religion et politique dans un petit aparté de podcast.
Est-ce que tu veux te parler de ton travail de recherche ?
Ouais, je fais une recherche sur la traduction de la théologie de la libération, qui est une idée développée en Amérique du Sud dans les années 60-70, et qui, basiquement, c'est des chrétiens, et notamment des prêtres, qui ont combattu les dictatures. Et notamment la dictature de Pinochet, etc., donc du fascisme, en fait. Et on assimile souvent, aujourd'hui, les chrétiens à des trucs réac, etc., qui sont contre les LGBT à juste titre. Hein. Enfin, je veux dire, c'est un vrai problème aujourd'hui, les positions de l'Église vis-à-vis des communautés LGBT et queer. C'est un vrai problème aujourd'hui, la position de certains catholiques vis-à-vis des étrangers et étrangères. Mais il faut pas oublier que le monde catholique, il est disparate, et qu'en fait, il y a aussi des bons catholiques dans... En tout cas, comme moi, je crois qu'on devrait être catholique et chrétien de manière générale, parce que bon, catholique, c'est une spécificité chrétienne, mais c'est plus large, le monde chrétien. Et qu'en fait, depuis les origines, enfin, pas les origines, mais depuis, ça va faire quoi, 150 ans, je crois que la doctrine sociale de l'Église, elle existe depuis 1863. Si jamais vous voulez consulter les textes, c'est Rerum Novarum qui donne la doctrine sociale à l'Église. Alors, faut savoir qu'elle s'est construite en opposition au communisme, ce qui est pas forcément une bonne chose, mais ce qui amène à une doctrine sociale quand même, voilà. J'aimerais bien, et je pense que c'est la bonne temporalité aujourd'hui pour que on retrouve un peu cette doctrine sociale aujourd'hui. Notamment parce que aujourd'hui, enfin là en ce moment c'est le synode. Alors c'est un terme qui parle à peu de gens, mais en gros le synode c'est le rassemblement des laïcs. Alors laïcs avec un C, c'est en gros les personnes dans l'Église mais qui sont pas prêtres, et les prêtres et les évêques, les cardinaux, etc. pour reformer l'Église. Pour réfléchir sur l'Église, et ce qui est hyper important, et c'est la première fois au monde que ça arrive, depuis tous les temps, c'est que là, c'est pas seulement les catholiques qui sont conviés, mais tous les chrétiens, donc les orthodoxes, les anglicans, les évangélistes, même si ça me fait chier, les protestants, etc. Et du coup, il y a ce truc où c'est un moment hyper important. Il faut savoir que le pape François vient d'Amérique du Sud, il vient d'Argentine. Donc il n'est pas en faveur de la théologie de la libération, mais en tout cas il l'a connue, et ça a certainement influé une partie de ses pensées. Et c'est un moment un peu charnière, parce que c'est le moment où on va décider des orientations de l'Église. Et en fait, si on laisse... Enfin, moi, l'antifascisme, j'ai lutté contre des groupes fascistes, etc. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de lutter contre les catholiques intégristes. Et c'est pour ça que je fais cette thématique de recherche, c'est que pour moi c'est important de faire découvrir et de faire entendre qu'il y a une voix catholique chrétienne de gauche, vraiment théoriquement et dans la pratique. Et puis c'est le moment où en fait faut qu'on les jarte ces gens-là quoi. C'est le moment où faut qu'on les jarte, et le synode c'est le meilleur moment pour nous quoi. Et du coup, pour celles et ceux qui se sentent catholiques ou croyants de manière générale, il faut prendre position en tant que croyant, et il faut prendre position en tant que croyant inscrit à gauche ou à l'extrême gauche, peu importe, mais voilà, affirmer que la religion c'est progressiste et qu'on peut en fait être solidaire avec toutes celles et ceux qui sont opprimés et que c'est la base de la religion en fait. Enfin, le message de Jésus, c'est les premiers seront les derniers seront les premiers. Bon, aujourd'hui, les derniers, c'est les étrangers et étrangères, c'est les femmes, c'est les personnes LGBT, c'est les personnes racisées, parce que aujourd'hui, c'est celles qui subissent des oppressions. Quand t'es un mec blanc, la cinquantaine, etc., cis, hétéro, en fait, la seule oppression que tu peux avoir, c'est d'être pauvre. Et oui, il y en a plein des gens comme ça, mais aujourd'hui, il faut que ces pauvres-là, ces mecs blancs, 6, 7, de 50 ans pauvres, ils se rendent compte que c'est pas les seuls, et qu'ils sont, il y a plein d'autres oppressions, et qu'il faut agir ensemble contre la bourgeoisie, qui existe dans chaque pays, et qui existe de manière internationale, donc, et il faut lutter contre, enfin, les étrangers et les étrangères, ils sont vraiment pauvres. Il y a plein d'étrangers et étrangères qui sont LGBT et c'est pour ça qu'ils fuient leur pays. Et en fait, c'est ceux et c'est celles qui subissent le plus de merde. Ils fuient la guerre ou la pauvreté pour qu'on les mette dans des prisons réservées pour elles et pour eux. On les massacre dans la mer. On lacère leurs tentes. On leur fait des contrôles tous les deux jours. Enfin, je veux dire, même un pauvre ne connaît pas ces conditions-là. Un pauvre en France, il connaît pas ça. Alors, enfin, peut-être au bout d'un moment, il faudrait ouvrir les yeux et se dire, bah, les derniers, c'est cette personne-là. Les premiers, bah, on sait qui c'est Bernard Arnault et d'autres. Et peut-être qu'il faudrait renverser la balance, quoi.
Est-ce que tu peux redéfinir un peu les principes de la théologie de la libération et comment est-ce que, justement, on peut les retrouver en Europe et en France plus spécifiquement?
Alors, il faut savoir que je suis au début de mes recherches, du coup je connais pas énormément de choses. Mais de ce que je sais, c'est que la théologie de la libération, c'est un mix en gros entre marxisme et christianisme. Et il y a une parabole que j'aime beaucoup de Don Elder Camara, qui pour moi est assez représentative de ce que c'est la théologie de la libération. Alors, je connais pas exactement, mais en gros, ce qu'il dit... Alors, pour situer Don Elder Camara, c'est un évêque brésilien, sachant que le Brésil a été un des pays où la théologie de la libération s'est le plus développée. Et du coup, en fait, il a une parabole sur les types de violences. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que c'est ridicule de critiquer la violence révolutionnaire si on critique pas les autres types de violences. En gros, il définit trois types de violences. La première violence, c'est la violence institutionnelle, ce qu'on appellerait aujourd'hui violence systémique. La deuxième violence, c'est la violence qui répond à cette violence, celle qu'on appelle violence révolutionnaire. Et la troisième violence, c'est la violence qui protège la première en attaquant la deuxième, en gros la police. Et il dit, c'est ridicule de critiquer la deuxième si on n'a pas un retour critique sur la première et la troisième, quoi. Et du coup, je pense qu'il y a cette énorme réflexion dans les années 60, donc en fait, c'est il y a assez longtemps, sur, de la part des chrétiens, sur quelles sont les violences. Donc ça, je trouve ça intéressant. Et puis, il y a un terme qui est abandonné, je crois, par la théologie de la libération et qui est remplacé par un autre, c'est la charité par la solidarité. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand la théologie de la libération naît, et peut-être je l'explique pas assez bien, et pour ça je vous conseille d'aller voir l'ouvrage de Michael Lowy, donc L-O-W-Y, sur la théologie de la libération. C'est que, en gros, quand la théologie de la libération naît, notamment au Brésil, c'est par des communautés ecclésiales de base, qui sont en gros des groupes de voisinage chrétiens. Voilà. Et il y a des groupes de femmes aussi, en non-mixité, dans les années 60, et il y a des groupes en mixité, hommes-femmes, enfin voilà. Et en gros, c'est communauté ecclésiale de base, plus les jeunesses ouvrières chrétiennes, les jeunesses étudiantes chrétiennes, tous ces milieux-là réfléchissent solidairement à construire une idée chrétienne qui soit en faveur des femmes, en faveur des indigènes et en faveur des pauvres. Et c'est tout ce foisonnement qui amène à la création de la théologie de la libération. Du coup, c'est hyper intéressant parce qu'au départ, j'ai dit c'est des prêtres, mais en fait, c'est des laïcs, dans le sens des gens pas prêtres, et des prêtres qui ont amené cette idée. C'est pas juste une idée amenée par des cardinaux, etc. quoi. C'est vraiment une idée du peuple chrétien de base qui prend puissance, en fait, en discussion, en solidarité. Vraiment, je pense que la théologie de la libération, elle s'incarne en collectif. Et c'est pour ça qu'on parle aussi d'un mix entre marxisme et christianisme, quoi. C'est que vraiment l'idée de communauté, l'idée de communion est vraiment très présente dans la théologie de la libération.
Okay. Et comment elle pourrait se traduire ici, du coup ?
Alors, ce qui est assez intéressant et assez désespérant, c'est que en Europe, c'est peu arrivé. En Europe, c'est peu arrivé, et du coup, mes recherches, ça porte sur presque un non-objet. Et bon, c'est actuellement sur ce quoi je travaille, donc là je m'avance peut-être un peu, mais j'estime que la théologie de la libération n'est pas arrivée, entre autres parce qu'elle était prise dans un champ, bourdieusien, parce qu'il y avait plein d'autres idées en gros. Il y avait plein d'autres idées, et du coup, cette idée-là n'a pas pu aboutir parce qu'il y avait d'autres idées qui plaisaient mieux, ou qui avait un meilleur rapport de force pour convaincre.
Des idées politiques, tu veux dire ?
Des idées politico-religieuses. Okay. Y a eu des chrétiens de gauche en France. Alors, je connais pas le reste de l'Europe, donc je vais surtout m'attarder sur la France. Il y a eu des idées de gauche en France. Il y a eu des initiatives qui ont été condamnées, même par l'Église, de prêtres ouvriers, qu'on appelait les prêtres rouges, qui étaient des prêtres au travail et qui étaient en même temps prêtres, en même temps travailleur, en même temps syndicaliste et en même temps militant au PCF. Sauf que ça n'a pas plu à l'Église parce qu'on est dans les années 50, qu'il y a l'URSS, qu'il y a Staline, et donc l'Église s'est positionnée face au communisme en disant que c'était un mal, connerie, mais il y a des initiatives, mais la théologie de la libération en Amérique du Sud a été, pas plus douce, mais a été plus acceptée que ces initiatives-là en France et globalement en Europe. Donc je pense qu'il y a aussi ce truc-là, c'est que l'Europe a très vite déchanté quand t'as une possibilité d'alliance entre le communisme et le christianisme. Après, par exemple, chez les protestants, c'est beaucoup plus fréquent d'avoir des protestants qui sont en même temps communistes. Mais ils n'ont pas l'institution ecclésiale au-dessus d'eux qui leur dit « c'est pas possible d'être les deux ». Orthodoxe, je connais pas du tout, notamment parce que c'est plus l'Europe de l'Est et que je connais pas. Et les anglicans, les seuls catholiques qui étaient révolutionnaires dans la sphère anglophone, c'était les Irlandais. Et ils étaient positionnés face aux anglicans, aux protestants anglais, quoi. Donc c'est un constat qu'on peut poser. Et pourquoi c'est pas arrivé en Europe ? Bah parce que il y avait des gens qui étaient moins révolutionnaires, moins hard, et que pour des catholiques à cette époque, après la Seconde Guerre mondiale, c'était peut-être plus faisable. C'est vraiment des hypothèses. Je saurais pas répondre franchement à cette question, quoi.
Extrait d'une vidéo de l'historien Jean Piel sur la théologie de la libération, trouvée sur YouTube, publiée par Cristal.
Aristide, c'est un jeune prêtre de 37 ans. Le cœur et le discours à gauche, il est le héros des bidonvilles et de tous les déshérités de Haïti. L'homme a échappé à 9 attentats et fait aujourd'hui figure de messie. Celui que ses partisans ont surnommé Titide a pour philosophie la théologie de la libération. Son emblème, c'est le coq dont le chant, dit-il, doit réveiller la nation. Son programme, il le résume d'une phrase, la chance à prendre.
Alors, petit étudiant communiste français des années 60, avec Garaudy, ouverture du dialogue marxiste-chrétien. Mais ça restait, en France, très académique, courtois, poli. À l'époque, le prieur, je ne sais pas comment on appelle ça, du centre catholique de la rue Richelieu, était Lutziger d'ailleurs, un type intelligent, qui lui aussi voulait le dialogue avec les marxistes. Alors bon, la théologie de la libération, c'est que c'est le passage à l'acte. Ça va aller beaucoup plus loin. Et devenant de théologien, en particulier le père Gutiérrez, le jésuite péruvien, doté comme certains hommes d'église d'une grande radicalité, il y a des antécédents, Bartholomé de Las Casas, il y a eu des chrétiens, Jésus-Christ lui-même, d'après ce qu'on nous en raconte, une certaine radicalité. Et deux, du coup, j'étais pas imperméable à l'idée d'une action entre marxistes et catholiques, en particulier en Amérique latine. Avec, bien sûr, les malentendus. Je me souviens, mes copains jésuites, mes copains dominicains au Pérou et ailleurs, l'amitié et les engueulades qu'on a pu avoir. Parce qu'ils posaient ça souvent en termes moralistes, légitimes, mais qui, à mon avis, étaient insuffisants. Et quand j'essayais de les faire glisser sur les conditions politiques pour réaliser cet idéal moral, dès qu'apparaissait le thème de la violence, et c'est le mérite de Gutiérrez ou de Camilo Torres, oui, ben même s'il y a la violence, après tout, Jésus a chassé à coups de fouet les marchands du temple. Bon, il ne les a pas tués quand même, mais tandis qu'il s'agissait de tuer à l'occasion. Mais donc, ça aura été un sujet de réflexion important pour moi, en particulier, je te dis, avec des copains dominicains, jésuites, qui faisaient du bon boulot. Entre autres au Cusco, ils essayaient de réhabiliter des communautés indiennes, y compris des trucs très pratiques, ils essayaient de leur faire élever du lapin angora, parce que la laine d'angora cotisait beaucoup plus cher que la laine de lama. Bon, ils avaient un sens du concret. Bon. Mais du coup aussi, parfois, ils s'y perdaient un peu. Ce qui fait que leur évêque leur disait, mais et les âmes là-dedans, qu'est-ce qu'elles deviennent? Ensuite, d'ailleurs, Jean-Paul II, leur a nommé un nouvel évêque inquisitorial qui les a dénoncés auprès du gouvernement péruvien comme soutien de guérilla. Entre chrétiens, on ne se fait pas de cadeaux. Donc oui, théologien de libération, ça avait été des conversations intéressantes. Et mieux que ça, parce qu'il y avait y compris des guérilleros catholiques sur une base catholique. Et je me souviens ce groupe Grandma que j'avais connu à Concepción au Chili, des jeunes étudiants, très idéalistes, qui vivaient une espèce de phalanstère où ils s'interdisaient les relations sexuelles entre hommes et femmes parce qu'il fallait tout consacrer à la révolution. Et il y avait une tonalité d'exaltation quasiment chrétienne dans leur révolutionnarisme castriste. C'était touchant et inquiétant en même temps. Que seront-ils devenus sous Pinochet? Ils ont dû être tous zigouillés, les pauvres. Bon. Bon, voilà les rapports que j'ai pu avoir avec le problème théologie de la libération. Et deux, par contre, ce que j'observe, c'est qu'avec Jean-Paul II, l'Église polonaise n'est pas la pointe du progressisme catholique. Un peu partout en Amérique latine, il a fait nommer des évêques réacs chargés de réprimer les théologiens de la libération et leurs audiences. Au Pérou, c'est évident, au Chili, c'est évident. Alors, l'actuel pape, je ne sais pas, oui, franciscain, bon, pauvreté, humilité, il est plus sympathique, mais je ne sais pas où il en est par rapport à la théologie de la libération, lui. En tout cas, ce dont je me souviens, c'est l'époque où, en France comme en Amérique latine, tu avais des catholiques de droite qui dénonçaient les curés théologiens de la libération comme des infiltrés communistes, dont, entre autres, Serge Lama, que j'aime bien par ailleurs, mais qui là, ce jour-là, m'a laissé sur le cul. Mais qu'est-ce que tu vas te mouiller là-dedans, petit con? Et deux, alors oui, les curés guérilleros, Camilo Torres, le christianisme, le fusil à la main. Hein. Et je comprends que ce soit un cas de conscience pour un chrétien, tu ne tueras point. Mais pour une fois, ils ont un fusil dans la main, c'est pour la bonne cause, alors que d'habitude, c'est pour aller massacrer des musulmans. Je m'en tire un peu avec des pirouettes, mais quand même. Bon.
Mais hier, tu me parlais un peu d'une traduction sous forme de religiosité.
Ouais.
Est-ce que tu peux développer un peu ça?
Ouais. En fait, Ce qui est intéressant, je pense, dans la théologie de la libération, c'est une forme de religiosité politique, où en gros, on a parlé de la doctrine sociale de l'Église qui existe depuis très longtemps, et en fait, souvent, on sépare, enfin, dans l'esprit français, la religion est séparée du politique. Séparation de l'Église et de l'État, 1905, patati patata. Mais en fait, il y a quand même ce truc où que la religion, elle reste politique dans le sens où, bah, on organise une communauté, on fait des actions sociales. Enfin, il y a une religiosité politique dans le sens où le rapport au religieux amène un rapport au politique. Et qu'un rapport au politique amène aussi un rapport à la religion. C'est un mouvement un peu double comme ça, où en fait, bah, par exemple, les gens de gauche vont être plutôt contre l'Église. Mais on pourrait imaginer que, parce que ça c'est uniquement européen, enfin, peut-être pas uniquement européen, mais très français, quoi. La gauche française est très anti-Église, quoi. Mais on pourrait imaginer que, justement, le message de Jésus, les premiers sont les derniers, etc. Justement, un rapport politique à la religion, ce serait de se dire, certes, l'institution ecclésiale, c'est de la merde, c'est, enfin, l'Église, en tant que hiérarchie, c'est horrible. Enfin, c'est que des hommes, vieux, donc forcément, c'est chiant. Mais par contre, on pourrait se dire, mais l'Église, c'est des communautés, de villages, de voisinages, de quartiers, et donc, on pourrait construire des choses par les paroisses, aider les gens, être solidaires avec les personnes les plus opprimées, dans notre communauté, mais aussi en dehors, agir ensemble, etc. Et peut-être, enfin, refaire des communautés ecclésiales de base, en gros, et peut-être que ça, pour le coup, ça pourrait être intéressant comme rapport politique, pas seulement dire l'Église, c'est nul, et donc tout ce qui concerne l'Église, c'est nul. En fait, il y a des bonnes choses à piocher partout, et quand on pense qu'il y a 2 milliards à peu près, et que je crois que c'est 80% de la population sur Terre est croyante, donc islam, judaïté, bouddhisme, etc. Enfin, on peut pas se dire que la religion, c'est juste l'opium du peuple, et à partir de là, jeter d'un revers de main la croyance. Enfin, je veux dire, et on s'écarte un peu du sujet des frontières, mais il y a quand même ce truc où si t'es pas croyant, t'es athée ou agnostique, mais ça veut pas dire que t'as pas un rapport de fuite au monde. En fait, les gens prennent de la drogue, les gens boivent. À partir de là, t'as de l'opium, quoi. Donc, je sais pas. Moi, je pense que je préfère de dire que peut-être qu'on doit avoir un regard apaisé vis-à-vis des personnes croyantes, comme on a un regard apaisé vis-à-vis des personnes qui prennent de la drogue ou qui boivent, et qu'on peut construire quand même des choses ensemble. C'est, en fait, on n'est pas opposé. C'est juste, on fuit d'une manière différente la réalité horrible de ce monde. Et quand on pense aux personnes étrangères et des personnes étrangères, en fait, la plupart sont croyantes. Enfin, aujourd'hui, quand tu regardes les populations étrangères en France, majoritairement, elles sont musulmanes. Et je trouve ça un peu bizarre de les soutenir sans essayer de comprendre ce rapport religieux, croyant aux choses. Enfin, du coup, il y a un moment où ça va bloquer si tu penses que la religion, c'est de la merde. Du coup, je dis pas que la religion, c'est bien. Il y a plein de mauvais points dans la religion. Mais on peut pas juste dire c'est de la merde si on veut être solidaire avec les personnes étrangères. Il faut à un moment, c'est pas, il faut être croyant. Mais moi, en tant que croyant, mes sœurs et mes frères musulmans et musulmanes, je comprends aussi, je comprends pas, mais j'entends ce qu'ils subissent. Parce que, en fait, être opprimé pour une religion, Alors, bon, c'est pas le cas pour les catholiques en France, mais c'est le cas pour les personnes musulmanes, et on devrait pas être opprimé juste parce qu'on croit en un dieu et qu'on a des principes différents, quoi. Et donc, ouais, il y a ce truc où je pense qu'il y a un manquement aujourd'hui des camps politiques qui sont les nôtres à refuser la religion, alors que les personnes étrangères qui sont quand même les personnes les plus opprimées, elles sont religieuses pour la plupart. Enfin, je veux dire, comment tu peux soutenir entièrement une personne qui se dit LGBT mais qui se dit musulmane aussi, si toi-même t'as pas un minimum d'éducation vis-à-vis de la religion? Parce que t'as décidé dès le début que la religion c'était de la merde. Voilà.
Là, dans ce que t'as dit, j'entends beaucoup aussi en quoi la religion elle est politique, mais en quoi le politique est aussi religieux et sacré. Est-ce que tu peux un peu plus développer ça?
Bah, le politique est sacré, déjà, si on prend la démocratie ou la république. C'est sacré pour beaucoup de camps politiques. C'est non négociable. On peut pas négocier la démocratie, on peut pas négocier la république. Donc, il y a un rapport religieux au politique aussi. C'est que, on ne peut pas critiquer, on ne peut pas affronter, en fait, parce que la démocratie ou la République, c'est Dieu actuellement. Enfin, quand tu vois le camp, comment il s'appelle ça, le parti, le Printemps Républicain, ils ont un rapport croyant à la laïcité. C'est des laïcars, quoi. Genre, pour eux, la religion doit pas exister. Mais ils sont religieux vis-à-vis de la République. Et la République, compris de manière française. Hein, est-ce qu'il faut... Ben, la République, aujourd'hui, dans l'idée française, c'est autre chose que la République allemande, par exemple. Mais du coup, il y a déjà ce rapport sacré aux politiques vis-à-vis de ça. Mais il y a aussi un rapport sacré dans le sens où on a des rituels, on a des façons de faire, on a une croyance, en fait. Globalement, les militants politiques sont des croyants envers leurs idées politiques. Du coup... Je trouve ça très bizarre de séparer politique et religion, alors qu'en fait, il y a beaucoup plus de choses comparables qui se passent entre les deux. Et que, quand tu regardes, je sais pas, les États-Unis, ils jurent sur la Bible. Enfin, la promesse de gouvernement est faite sur la Bible. En France, la plupart de nos présidents ont été à un moment croyants, ou le sont. Ils vont à l'église. Macron a été un élève de Paul Ricoeur, qui a été un philosophe chrétien ou protestant, peu importe. Mais je veux dire, aujourd'hui, la politique s'inscrit dans un cadre culturel. Le cadre culturel européen et français, de manière générale, est influé par le judéo-chrétien. Donc c'est pas possible de penser séparément religion et politique. Il faut les penser ensemble. Si on veut avoir une critique des systèmes oppressifs, il faut les penser en termes religieux et en termes politiques. Et il faut penser la politique en termes religieux. Et je pense que... Enfin, je veux dire, l'Église est un système politique. Mais l'État est un système religieux aussi. Il inculque des croyances, il éduque, et il fait réciter par cœur la Bible. La Bible, c'est les droits de l'homme et du citoyen. Enfin, je dis un peu n'importe quoi, mais dans le sens où il y a une institution pour réprimer les gens qui pensent différemment. Enfin, je veux dire, la construction de l'État a suivi la construction de l'Église. L'Église fonctionne en ministère. Bizarrement, c'est le même terme pour l'État. Je veux dire, il y a quelque chose de similaire, de comparable. Et la République, le républicanisme, c'est une religion. Enfin, croire que les républicains se sont construits en opposition, mais aussi en similarité vis-à-vis de l'Église.
Leonardo Boff est ce théologien qui a été réduit au silence par le Vatican il y a 2 ans, puis réhabilité. Il vit à Petropolis, près de Rio de Janeiro, au Brésil. Il était récemment à Montréal avec son frère Clodovis, également prêtre, qui travaille à Sao Paulo et en Amazonie. Je leur ai demandé si la théologie de la libération et les théologiens de la libération étaient dangereux.
Ils sont dangereux pour ces groupes, ces gens, ces organisations qui ne veulent pas le changement social, qui ne sont pas sensibles à la question de la marginalisation, de l'oppression des pauvres, qui veulent maintenir le statu quo. Et des gens de la société et de l'Église, malheureusement. Mais elle n'est pas dangereuse pour les pauvres. Les pauvres se sentent confirmés, animés, soutenus par cette théologie. C'est une théologie amie des pauvres. Et quand nous sommes atteints par quelques mesures disciplinaires ou menacés par les pouvoirs, même publics, nous recevons une solidarité très, très grande des gens de la base, des ouvriers, même des prostituées, des curés, même des cardinaux qui nous écrivent en nous disant qu'ils sont à côté de nous. Alors pour eux, nous ne sommes pas dangereux du tout. Nous sommes une force pour eux. Nous signifions quelque chose de futur, d'espérance. Mais certainement dangereux, particulièrement pour nos gouvernements dictatoriaux qui nous considèrent comme ennemis. Parce que nous voulons la liberté, nous voulons la libération.
Est-ce qu'il y a une force des pauvres? Est-ce qu'ils ont une forme d'organisation qui peut leur permettre un jour d'espérer?
Écoutez, ça c'est très important que de découvrir la force des pauvres. Si on n'a pas foi, confiance dans les pauvres, c'est inutile de travailler avec eux. Le premier rapport avec les pauvres, c'est un rapport de sujet au sujet. Ça veut dire les traiter comme personnes humaines, qui ont des droits, qui ont un savoir, une sagesse traditionnée par leur culture, et qui ont une force, une potentialité qui est enchaînée, qui est emprisonnée à l'intérieur d'eux-mêmes, et qu'il s'agit alors, par un travail pédagogique, de libérer par une pédagogie de la conscientisation, en leur disant, en leur faisant prendre conscience qu'ils sont des personnes humaines, qu'ils sont enfants de Dieu, et qu'ils sont des frères l'un de l'autre, et qu'appartiennent à eux la libération de leurs frères et sœurs. Et alors, quand on suscite cette conscience, alors la force emprisonnée des pauvres s'éveille. Elle commence à organiser, elle commence à lutter, elle commence à vaincre. Ça, c'est le travail de conscientisation que l'Église mène en Amérique latine, traitant les pauvres comme sujet et pas comme objet, en faisant foi aux pauvres, et pas en conduisant aux pauvres à la libération, mais en aidant les pauvres à se libérer. Mais c'est eux qui sont artisans premiers de la libération. L'Église, les théologiens, nous autres, les évêques, sœurs et même des laïcs de la classe moyenne, professeurs, techniciens, nous sommes des auxiliaires, des serviteurs du peuple, des pauvres. Et ce sont eux les premiers responsables de leur propre libération.
Je voudrais ajouter une parole que j'écoutais de Claude Vise une fois. Il disait que un faible plus un faible ne fait pas deux faibles, mais un forte. Parce que l'union qui fait la force. Alors, je pense que la force des pauvres, des faibles, est exactement cette capacité d'union, de conscientisation collective. Et de aussi déchiffrer les mécanismes de la pauvreté. Alors, le pauvre n'est pas seulement pauvre, est opprimé. Il est fait pauvre.
Mais on ne risque pas de créer encore une fois, je ne sais pas, des groupes de minorités, une église de minorités encore une fois, en les regroupant dans des petites communautés de base.
Au Brésil, il y a plus de 100 000 communautés de base. Ce sont environ 4-5 millions de chrétiens qui participent dans les communautés de base. Ce sont des chrétiens militants qui participent vraiment. Ce ne sont pas des baptisés qui vont à l'église, mais passant par participation. Participation ecclésiale et sociale. Alors, c'est un type, la qualité est tout à fait différente. Alors, cette église de base, de pauvres, église de communauté, signifie un grand dynamisme pour toute l'église. Il y a une convergence entre l'église institutionnelle des évêques, des prêtres, et l'église de cet peuple organisé. Il y a une convergence, ce n'est pas une église parallèle qui est contre l'autre. Mm-hmm. L'église institutionnelle veut l'église de base veut l'église institutionnelle. Mais la force de cette église, qui est un mouvement historique qui change l'Église même et essaie de changer la société. Alors, dans la communauté de base, il y a les cardinals, par exemple, le cardinal Arns, l'Orscheid, des archevêques, des évêques, des théologiens religieux. C'est toute une dimension de l'Église. Ce n'est pas une fraction de l'Église. C'est toute une dimension de l'Église qui veut faire cette union, cette articulation entre pauvreté et justice, évangile, communauté, comme force pour réparer cette misère, cette injustice.
Oui, je vais vous donner un exemple sur la façon comme les communautés de base, qui sont des petits groupes, réussissent à entraîner tout un quartier et toute une population plus ample pour des causes concrètes. Par exemple, tout près de João Pessoa, une capitale du Brésil, il y a une menace d'expulsion de tout un quartier populaire d'un lieu déterminé de la banlieue. Alors, la communauté de base a été la première qui a perçu cette menace. Et alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a réussi à regrouper tous les gens, à convoquer toute la population pour résister à cette menace. Il a organisé la résistance. Ils ont fait des souscriptions, ils ont fait des marches sur la mairie pour empêcher que la police s'y aille et expulse les gens. Alors, voilà un petit cas qui démontre comment la petite communauté de base, ce n'est pas un ghetto, ce n'est pas une secte fermée sur elle-même. Et c'est comme le ferment qui agit à l'intérieur de la grande masse des peuples, qui est parfois un catholicisme très traditionnel, un catholicisme très éclectique, pas seulement catholique, mais mélangé avec des spiritismes, religions afro-brésiliennes, mais qui, agité, soulevé, animé par la communauté de base, réussit à faire un chemin de libération.
Quand il s'agit du pauvre et de l'opprimé et que l'on cherche donc sa libération, quelle relation faut-il entretenir avec les théories marxistes de libération? Clodovis, peut-être?
Oui, je commencerai. Je dirais ceci, que notre problème n'est pas le marxisme, le communisme, mais c'est le problème des pauvres, de la pauvreté, de l'oppression. Et pour vaincre la pauvreté, nous ne partons pas non plus du Capital ou du Manifeste du Parti communiste. Nous partons de la Bible, nous partons de la parole de Dieu, de la foi, n'est-ce pas? Pas seulement nous, les communautés de base. À la porte d'entrée pour la conscience critique, politique, ce n'est pas un livre de politique ou de pédagogie, mais c'est la Bible elle-même, l'Évangile, n'est-ce pas? Le marxisme, comment il entre ici? Le marxisme entre comme un instrument d'interprétation de la réalité sociale. Alors, on emploie parfois quelques catégories marxistes, quelques points méthodologiques du marxisme, pas le système intégral avec son matérialisme, son athéisme, pas du tout. On accepte quelques théories pour interpréter la réalité sociale et pour trouver des issues. Ce n'est pas parce que nous employons quelques catégories marxistes, comme par exemple exploitation, aliénation, praxis, lutte, classe sociale, que nous devenons pour cela marxistes. Parce que le pape lui-même, Jean-Paul II, a employé ces catégories. Et ce n'est pas pour ça qu'il est un pape marxiste, c'est un pape catholique, c'est notre pape. Quoi.
Mais qu'est-ce qui fait peur alors? Pourquoi on a tant peur? Pourquoi il faut aller s'expliquer quelquefois, n'est-ce pas, par rapport au langage que vous utilisez?
Ce qui se fait peur, c'est que l'explication marxiste montre que le pauvre est plutôt un opprimé et que l'oppression est causée par un procès d'exploitation. Alors, il faut dénoncer les causes concrètes. Et le système capitaliste, par exemple, chez nous, c'est un capitalisme dépendant et associé avec le grand capital. C'est le plus grand ennemi de la société des pauvres parce qu'il est le principal facteur producteur de cette exploitation. Alors, le marxisme est utile dans ce sens-là, qu'il a montré, il a créé une rationalité pour montrer ce procès d'approvisionnement. Et les personnes qui sont engagées au système capitaliste voient là une critique qui démasque cette situation. Et alors sont contre, et avec raison. Mais pour nous, c'est important pour les pauvres qu'ils connaissent que la pauvreté n'est pas naturelle, n'est pas voulue par Dieu. À cause de cela, nous disons que l'option de l'Église pour les pauvres est contre la pauvreté, pour sortir de la pauvreté, pas dans la direction de la richesse, mais dans la direction de la justice. Alors, contre la pauvreté, il faut créer conditions pour la justice, pour la participation.
Le théologien de la libération, on va changer un petit peu de sujet, où est-ce qu'il est? Vous êtes tous les deux enseignants à l'université, n'est-ce pas? Alors, vous êtes là en théoricien aussi, mais concrètement, vous vivez la libération de quelle façon? Peut-être Père Clodovis, pour commencer.
Vous voyez, notre principale contribution à la libération, c'est vraiment au niveau théologique, ça veut dire au niveau de l'approfondissement théorique, de la réflexion, de la parole de Dieu, mais toujours en faveur et au service des communautés de base, de nos évêques, de nos laïcs qui sont dans la ligne du choc, la ligne de vanguarde de la lutte, n'est-ce pas? C'est le service principal que nous prêtons. Mais aussi, nous avons un pied dans la pratique concrète. Pour sentir cette pratique, pour être solidaire d'elle et aussi pour nourrir notre propre réflexion. Alors, nous donnons des cours, nous écrivons, nous donnons des conférences, mais nous sommes aussi à côté du peuple au moment des luttes, au moment concret. Moi, personnellement, j'ai travaillé la moitié de l'année au sud du Brésil, donnant des cours de théologie, et la moitié de l'année, je travaille en mission en Acre, auprès des communautés de base. Je voyage par la forêt, je marche 5, 6, 7 heures par jour, je visite les communautés, je les anime dans leur chemin. Je suis présent avec d'autres animateurs pastoraux lors des conflits, lors des invasions des terres, lors des expulsions, lors des assassinats, pour regrouper les gens, pour réorganiser les gens, pour animer leur lutte, etc. Et c'est dans cette articulation entre théorie théologique et praxis de libération que la théologie marche, se purifie, se consolide et avance.
Vous êtes un peu loin des intellectuels de cabinet, c'est vous autres même d'ailleurs qui utilisiez cette expression-là. C'est vous, Leonardo, qui utilisiez cette expression.
On essaie d'être intellectuel organique, c'est-à-dire organiquement lié à l'acheminement des pauvres. Ouais. Alors, 3 jours dans la semaine, j'ai fait la théologie. Je suis professeur de théologie. Et les autres 3 jours, je travaille en contact avec les communautés, spécialement dans la ville où je vis, Petropolis, dans une banlieue. Ce sont des personnes qui vivent strictement du rejet de la ville. Alors, il y a là une communauté fort organisée. Et je suis là depuis 10 ans, mais constamment, permanent. Ce n'est pas un pique-nique qu'on fait, alors on revient. Mais accompagner la communauté, faire des réunions, des réflexions bibliques, des cours sur communauté de base, des formes d'organisation, de travail. Et l'autre activité est accompagner l'Église au Brésil, les communautés de base, des cours des évêques, des retraites, partout un peu au Brésil, un peu aussi en Amérique latine, en Europe, maintenant ici. C'est un travail qu'on fait au-dedans de l'Église qui est intéressé dans cette transformation qui a une mission sociale en faveur des pauvres, en faveur de la justice.
Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit
où vous êtes forcé de vivre.
Quelle est l'identité de genre d'une personne? Exactement, comment se siente? ¿Y qué? ¿Por quién sentís atracción sexual afectiva? ¿O por otras mujeres? ¿Ella deja de ser mujer? ¿Por eso?
No sé qué. Es imposible disociar nuestra identidad y nuestro cuerpo.
El cuerpo para nosotras es una herramienta de lucha.
Dans un corps sain. Au bord des corps.